sorti si tard. Même le sourire de celle dont tu regardes le lit.
Radio G 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elle les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Une méga bassine, c'est un réservoir superficiel, énorme, plusieurs fois les terrains de football, rechargé par des pompages dans les nappes.
Ça s'appelle des retenues de substitution. C'est un bien commun, l'eau. C'est de l'eau. Dès lors qu'elle est arrivée dans la bassine, elle n'est utilisée que par les gestionnaires de la bassine. D'un seul coup, toute cette eau se retrouve privatisée et elle sert à de l'irrigation.
Le principe des bassines, c'est ni plus ni moins que de voler une réserve collective qui s'appelle la nappe phréatique, qui sert à l'eau potable, qui sert aux rivières, qui sert à l'irrigation, pour la mettre en surface. Et à partir du moment où elle est en surface, elle est plus à tout le monde. Et ce dispositif pour la mettre en surface et se l'accaparer, c'est payé par 70% d'argent public. Macron a fait un choix politique de donner l'eau à l'agriculture la plus pourrie pour satisfaire les lobbies. Quand l'État n'est pas garant de l'intérêt général, quand l'État dépasse, n'attend pas la justice, passe en force, eh bien, il y a un devoir d'insurrection, il y a un devoir de protéger nos biens communs et simplement pour nos mouflets. On en est là, face au rouleau compresseur, les citoyens se soulèvent.
Salut, c'est JBD, c'est la voix off. Deuxième épisode de notre série autour du mortifère scandale des méga-bassines. Les méga-bassines, ou retenues de substitution, ce sont des espèces de bassins creusés dans la terre et dont l'intérieur est tapissé de bâches. Ce sont des réserves de stockage d'eau destinées à l'agriculture industrielle, type irrigation de maïs pour nourrir des bestiaux. Le problème est que cette eau est directement pompée dans des nappes phréatiques qui sont parfois déjà déficitaires, car les nappes d'eau ne sont pas inépuisables. Le danger est mortel et quasi imminent. Si ce modèle de pillage de cette ressource commune et vitale qu'est l'eau se généralise, il faut hélas anticiper qu'un jour, tu vas ouvrir ton robinet et qu'aucune eau n'en coulera, ou alors de l'eau polluée, non potable. Or, tu le sais, sans eau, pas de vie. On en parle aujourd'hui avec Gilles, qui connaît bien ce dossier des méga-bassines. Gilles, rencontré dans le bus affrété par la Confédération Paysanne, c'était ce samedi 26 mars 2022, pour se rendre à la Rochénard, dans les Deux-Sèvres, pas loin de Niort, où a eu lieu une grande manifestation anti-méga-bassine qui a réuni plus de 5000 personnes et presque 2000 représentants des forces de l'ordre. Or, dans ce coin des Deux-Sèvres, aux abords du marais Poitevin, il existe déjà de ces méga-bassines qui pompent l'eau directement dans des nappes phréatiques dont certaines sont déjà basses. Et le danger, et ce que promettent les autorités, c'est que ce modèle d'aberration agricole se répande partout en France. Alors, outre le fait qu'une ressource commune et vitale se retrouve privatisée par une poignée d'industriels de l'agriculture, qui plus est avec des deniers publics, on le répète, le danger est mortel. La menace, c'est la disparition de l'eau potable. On en parle pendant une heure avec Gilles, dans ce bus qui nous emmène à la manif du 26. Bonjour Gilles.
Bonjour à tous, bonjour à toi et bonjour à tous.
Tu fais quoi dans la vie, toi ?
Moi, je suis retraité depuis déjà un certain temps. Et puis, on peut dire que je suis un peu militant dans plein de domaines.
Notamment avec la Confédération Paysanne ?
Alors avec la Confédération Paysanne, bon, je suis pas paysan, je fais partie des amis de la Confédération Paysanne. Ils ont, la Confédération Paysanne est cette organisation complètement intelligente qui a compris qu'elle pouvait être à la fois une organisation, oui, de cultivateurs de paysans, hein, pour reprendre les termes qu'ils prennent et qui sont les bons termes, mais aussi une association qui a des visions sociétales et qui donc sait qu'on ne peut pas parler de l'agriculture uniquement avec les paysans, qu'il faut en parler avec la société. Et c'est tout à fait intéressant. C'est pour ça que j'ai adhéré depuis longtemps aux amis de la Confédération Paysanne.
Et on note bien qu'il y a un distinguo entre paysans et exploitants agricoles. C'est pas la même approche. Et c'est pas le même syndicat non plus.
Tu remarqueras que j'ai pas du tout utilisé exploitants agricoles. Ouais. Déjà, agricole, j'ai pas rien contre exploitants. Peut-être il faudrait regarder un peu plus près. Non, sur agriculteur, ça dit pas complètement les choses. Donc voilà. Paysan, je trouve que c'est bien, que ça marche. Et
pour en revenir très rapidement à toi, dans la vie active, tu faisais quoi ?
J'étais prof de maths dans un collège de zone d'éducation prioritaire pendant très très longtemps. Voilà. Et puis aussi en lycée à certains moments, mais voilà. C'est pas complètement faux de parler de prof de maths parce que je tiens à une culture scientifique. Ça fait partie aussi de mon engagement. Et puis pendant qu'on y est, j'ai rencontré aussi la conf sur le combat des faucheurs volontaires.
Et ça a presque une vingtaine d'années là. Enfin oui, ça fait un moment que ça dure cette affaire.
Oui, mais
les faucheurs volontaires d'OGM. Hein.
Ouais.
Rencontré devant le palais de justice de Tours, non, c'est possible.
Ah bah oui, parce que j'ai été comparant. J'ai été comparant volontaire sur le.
Il me semblait bien que c'était déjà vu en fait.
Non, voilà, mais il y a une vraie cohérence dans le tout et j'insiste sur le fait d'avoir une culture scientifique m'a conduit à être faucheur volontaire. Mes combats sont aussi des combats pour que la science reste scientifique et qu'elle ne soit pas un nouveau dogme technologique.
Alors, c'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais enfin, on peut rappeler quand même à ceux qui ont oublié ou qui n'ont pas connu cette lutte contre les OGM, contre ces plantes génétiquement modifiées. C'est une lutte contre les multinationales qui cherchent à privatiser le vivant, à inféoder le monde paysan, le monde agricole à des semences stériles, en fait, qu'on peut juste planter, ça fait une plante, et après, l'année d'après, il faut racheter à la multinationale, etc. Enfin, le combat contre les... Je te vois rigoler parce que...
On fait pas de résumé.
Ça a l'air...
Non, t'as raison, mais on
ne
fait pas le résumé.
Oui, bien sûr, il y a tout ce que tu dis, mais on fait pas le résumé. C'est aussi une lutte qui a combiné une réflexion sur le légitime et le légal avec des gens qui ont une pensée très puissante sur ces questions-là. C'est des gens qui se sont posés la question de comment on était inséré dans la société. Il y a tout ça. Il y a l'élément simplificateur de la science qui est plutôt inadapté à la nature. Il y avait tout ça. C'est un combat extrêmement riche et qui a apporté plein de choses à plein de gens, et c'est un combat dans lequel la Confédération Paysanne a joué un rôle absolument vital. S'il n'y a pratiquement pas d'OGM, il y en a plein des OGM, hein, mais les OGM transgéniques, il n'y en a pas en France. On le doit à des combats dans lesquels la CONF a eu un rôle important, et toute la CONF, pas seulement José Bové, tout ça, toute la CONF. Moi, j'ai des vrais amis dans la CONF qui tiennent à ça, parce que dans tous ces combats-là, il y a une forme de romantisme et tout qui est utile. La CONF s'est alliée du romantisme et beaucoup de rigueur d'organisation, et c'est ça qui fait gagner.
Mais je vois pas pourquoi on s'en priverait en fait de se dire que nos combats sont nobles.
Non, on s'en prive pas, mais c'est bien de savoir que on est sur des combats qui sont des combats totalement multidimensionnels, voilà, et donc la façon dont on combat est aussi multidimensionnelle. Donc oui, on prend notre pied, oui, on est content, on est avec des gens et tout, oui, c'est des rencontres et tout, oui, c'est noble, voilà, oui, tiens, j'ai pas mon coquelicot, mais oui, on se bagarre pour qu'il y ait des coquelicots, tout ça, c'est extrêmement important et ça fait partie du combat. Un peu de rigueur dans l'organisation fait aussi partie du combat, et si on l'a pas, ben, on perd quelque chose.
Aujourd'hui, là, on se retrouve dans un bus. Alors, tu vas nous dire tout à l'heure où on va et contre quoi on va manifester. Des bus de ce type, je suppose que tu en as déjà pris aussi pour aller à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Oui, on y est allé. Mais ceci dit, je prétends pas avoir été... j'ai pas été plus actif que tous les gens qui sont allés soutenir. Voilà. Mais dans tous ces combats-là, il y a des gens qui engagent leur vie sur 5-6 ans et tout, complètement. Faut pas prétendre être ce qu'on n'est pas. Donc, j'ai pas été occupant de la ZAD. J'ai beaucoup de respect pour les ZADistes. J'ai beaucoup regardé ce qu'ils disaient, ce qu'ils écrivaient. Ils ont théorisé des choses, mais je n'en étais pas. Voilà. Mais par contre, oui, je suis allé. À chaque fois qu'ils ont demandé d'y aller, j'y suis allé.
Alors dis-moi Gilles, là on est dans un bus, on s'est retrouvé ce matin à Tours Sud à 9h, 9h30 du matin. On va où là ?
Donc on va dans une partie plutôt sud du Marais Poitevin, qui doit être à la limite entre les deux Sèvres et la Charente-Maritime. Je sais plus exactement dans quel département on est, je pense que c'est dans les...
79,
je sais. C'est deux Sèvres alors. Ah non, mais c'est vraiment limite. Donc c'est un des villages qui fait partie d'une grande zone concernée par ce qu'on appelle un protocole qui a été signé il y a deux ans. C'était un territoire sur lequel il était prévu 19 bassines et le protocole l'a réduit à 16, mais il en reste encore 16 qui sont projetées, dont une dont la construction est terminée et qui doit être en phase de remplissage.
Qu'est-ce que c'est qu'une bassine ? Méga bassine ?
Ce qui lui vaut le surnom de bassine, c'est que ça ressemble à une bassine. On a l'habitude d'avoir des retenues d'eau, on barre un ruisseau de montagne, ça monte un peu, ça passe par-dessus et tout. On a vu des barrages plus qui étaient plus que des ruisseaux de montagne, hein. On a des gros barrages qui ont été faits, mais c'est le lit qui est recouvert d'eau et puis il y a de l'eau qui se passe là. La bassine, c'est un peu différent, c'est que c'est vraiment un récipient qui est construit de façon artificielle sur le terrain. On décape le sol à peu près à plat, toute la terre qu'on a pris à cet endroit-là, on la met sur les bords et ça fait une paroi. Ça a une forme en général à peu près géométrique, enfin, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas. Des fois, c'est juste la parcelle de terre qui a été décapé et on a mis sur les bords. Et ensuite, eh bien, évidemment, si
c'est profond.
Ça dépend évidemment, mais ça ne devra jamais dépasser le creusement 7-8 mètres. En général, c'est plutôt 3-4 mètres. Hein. Et ce qu'on a décapé, on met sur les bords. Donc si on fait la différence entre le haut du bord et le fond, on peut arriver à une dizaine de mètres. Une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur. Vu quand on arrive sur le terrain, peut-être on en verra là. Ça apparaît comme un mur, comme une espèce de mur.
Ça... Les tailles sont variables, parce que bassine, t'imagines un petit truc en plastique pour laver tes chaussettes, quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais j'entendais là une collègue qui disait qu'il y a des projets où il y en a qui sont grandes comme plusieurs Leroy Merlin. Hein, Leroy Merlin, oui. Je crois que c'est 2 hectares.
Là, en ce moment, dans les projets, il y en a de 5 hectares. Et 5 hectares, bon, alors disons autrement, c'est 5 terrains de foot. Il hein. Faut imaginer la surface de 5 terrains de foot entièrement décapée, donc bien plat, bien net. Ce qu'il faut imaginer après, c'est une bâche, un géotextile, une grosse couche totalement imperméable, en général noire. Et ça, c'est sur 5 hectares. Vu de l'intérieur, on a vraiment l'impression d'être dans une bassine, vraiment. C'est pas un terrain naturel, ça n'a rien à voir. C'est un truc artificiel qui est posé au milieu de tout ça. Et donc, c'est une bassine qui est destinée à récupérer de l'eau.
En tout cas, à la stocker.
À la stocker. Ouais. La récupérer, évidemment, il ne suffit pas que l'eau tombe dessus, ça ne suffit pas pour arriver à remplir la bassine. Et donc, il faut aller la chercher ailleurs.
Donc, c'est un pompage, ça.
Ben oui, bien sûr. Toutes les bassines qu'on va voir là sont des bassines qui pompent dans une nappe souterraine, qui vont chercher de l'eau dans une nappe souterraine pour remplir la bassine. Alors après, on peut se poser la question, pourquoi il faut aller la chercher dans la nappe pour la mettre dans la bassine pour aller la repomper après? Ben c'est parce que on pompe dans une période où en principe on pense qu'il y a beaucoup d'eau dans la nappe et on l'utilise quand il n'y a plus d'eau dans la nappe, mais parce que comme on l'a stocké quelque part, en gros on corrige la nature, c'est-à-dire on donne de la flotte au moment où l'homme en a besoin.
Donc c'est pas qu'un simple projet de récupération des eaux de pluie ou de ruissellement, il y a des chances, c'est que l'eau, on va la chercher dans la nappe.
Alors, premièrement, non, ça n'est pas que de l'eau de ruissellement. Toutes les bassines qu'on va voir là, c'est du pompage dans la nappe, d'accord. De toute façon, pas de ruissellement, elles sont plus hautes que le terrain, donc il faudrait de toute façon l'amener et la pomper, etc. Et tout, donc c'est pas de l'eau de ruissellement, c'est pas de l'eau qui tombe, ça vient pas d'un toit, ça vient pas de tout ça, ça vient d'une nappe. Ce qu'il faut dire, c'est que l'eau qui est arrivée dans la nappe, elle vient de quelque part. Et que donc, si on interrompt des ruissellements pour récupérer de l'eau. D'une certaine manière, on l'empêche d'arriver dans la nappe. C'est pas tout à fait le même résultat quand même que d'aller la pomper directement dans la nappe. Mais grosso modo, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que toute eau qui n'arrive pas à l'endroit où elle arrive naturellement, elle est prélevée sur le milieu. Donc, si c'était du ruissellement, ça ne serait pas pour autant totalement vertueux, mais ça n'est pas du ruissellement. C'est effectivement de l'eau qui est arrivée dans des nappes souterraines et qu'on va pomper. De l'eau d'ailleurs qui arrive des fois dans les nappes souterraines par des échanges avec les rivières, échanges qui peuvent être dans les deux sens, c'est-à-dire que la nappe souterraine renvoie de l'eau dans la rivière ou l'inverse, et donc d'une certaine manière, cette eau qui est prélevée dans les nappes, elle manque dans les rivières aussi.
Marley, plus d'eau. C'est la menace qui plane sur nous si nous laissons les tenants de l'agriculture industrielle dilapider cette ressource vitale qu'est l'eau. Or, avec les méga-bassines, l'eau est pompée directement dans les nappes phréatiques. On continue à en parler avec Gilles.
Quelle est sa destination à cette eau pompée dans les nappes et stockée dans ces bassines? C'est pour de l'irrigation, c'est ça?
C'est un deuxième élément d'opposition à la bassine. C'est un bien commun, l'eau. C'est de l'eau. Dès lors qu'elle est arrivée dans la bassine, elle n'est utilisée que par les gestionnaires de la bassine. Et donc, d'une certaine manière, d'un seul coup, toute cette eau se retrouve privatisée et elle sert strictement à de l'irrigation pour les propriétaires, en général, sont coopérateurs, mais qui sont ceux qui ont été les promoteurs de la bassine et qui donc s'en servent après. Et on ne rentre pas comme ça dans le cycle. Il y a un certain nombre de promoteurs de bassines qui ont compris que ça pouvait avoir de choquant et qui sont en train de préconiser de faire des retenues qui seraient multi-usages pour mettre un certain nombre d'autres gens dans le cycle. Mais ça supposerait, alors, en ce cas-là, une vraie vision globale. Peut-être on en parlera après. Et en tout cas, en ce moment, c'est pas du tout le cas. En ce moment, c'est très clairement des bassines qui sont liées à une irrigation. et qui libère de l'eau quand on en a besoin pour l'irrigation, ce que le milieu ne produit pas, parce que le milieu, des fois, il n'est pas forcément adapté à la culture qu'on est en train de faire sur place.
Je sens qu'on va se mettre à parler de maïs, là. Non, parce que voilà, si non, ces petits canaux d'irrigation profitent à des petits maraîchers en bio, tout ça, bon, c'est pas bien de pomper dans la ressource, mais au moins, c'est pour une agriculture... Non, en fait, c'est pas ça, l'histoire.
C'est une vraie question. Bien sûr que bon, la culture, ça suppose qu'il y ait de l'eau dans les sols. Voilà, donc, il faut qu'il y en ait. L'idée, c'est quand même de faire des cultures qui soient adaptées à l'endroit où on est. Hein, c'est effectivement qu'à partir du moment où on essaye de faire, de prendre n'importe quelle culture, de la faire sur n'importe quel sol, avec n'importe quel climat, mais d'arriver à changer toutes les conditions pour que ça rende la culture possible, dans ce cas-là, on arrive sur une uniformisation complète, et du coup, là, on est obligé de tordre l'environnement complètement, puisqu'on est obligé de lui faire faire ce qu'il ne fait pas naturellement. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, il vaut mieux faire des cultures qui ont besoin d'eau à des endroits où il y en a, et au moment où on en a besoin. Non. Après, on sait que le maraîchage, c'est mieux si c'est pas loin des villes, si c'est... Bon. Et donc, il peut y avoir une discussion sur ces besoins-là. Mais précisément, il faut qu'il y ait une discussion. Et donc, la vérité, c'est de dire qu'en ce moment, l'irrigation, c'est pour une très forte part, très très forte part, des cultures de maïs, avec des besoins en eau particuliers au maïs, qui sont dans des périodes où il n'y a pas beaucoup d'eau dans les rivières, juin, début juillet, et où voilà, on amène donc de l'eau. Alors après,
et le maïs est extrêmement gourmand en eau par rapport à une autre plante comme le sorgho, par exemple.
Le maïs, c'est plus gourmand que le sorgho. Le maïs, c'est quand même d'abord une plante plutôt tropicale et donc qui a besoin d'un climat tropical, et on n'a pas des climats tropicaux. Donc essayer de les refaire, c'est quoi? C'est toujours un peu compliqué. Mais surtout, il faut que cette question-là fait aussi partie du débat. Le maïs qu'on cultive, nous, c'est pas du maïs pour faire du pop-corn. C'est du maïs qui nourrit des animaux. Et donc, c'est un mode de culture qui est associé à une multiplication de la production d'animaux, et la multiplication dans des conditions qui ne sont pas les conditions du pâturage et tout, mais qui sont les conditions de l'étable avec culture particulière. Et donc, c'est un mode d'agriculture, mais c'est un mode d'alimentation aussi, qui doit être questionné forcément.
Oui, alors, quand tu dis étable, ça fait crèche de Noël, bucolique avec la botte de foin. C'est pas ça, là. Tu
fais hangar, oui.
Oui, voilà, hangar, ferme des 1000 vaches, camp de concentration pour bovider.
On peut mettre tout ça dans le paquet. Si on en reste à la question des besoins, il reste qu'on crée une alimentation qui est extrêmement gourmande en eau, en terre, en produits d'hiver, parce qu'on produit des protéines et puis des aliments qui nourrissent les animaux, qui eux-mêmes nourrissent après des hommes, et que ce mode de production-là est un mode, alors d'abord qui s'est beaucoup emballé, hein, parce que la consommation de viande a pris les mains, mais qui est destructeur des écosystèmes quand on l'a fait à des endroits où il n'y a plus la place et où on est obligé de tourner les choses. Et donc, oui, la question qui est posée, c'est à quelle agriculture sert cette eau? Alors, à quelle agriculture elle sert? Là, on vient de parler de ce qu'on cultive, donc aussi de pourquoi on le cultive et quel type de société ça induit, mais c'est aussi à quel type de ferme ça répond aussi, parce que ça va ensemble, et que ces modes d'agriculture-là sont des modes avec des concentrations de fermes, avec des extensions, et avec des fermes de plus en plus grosses et de plus en plus de disparition d'agriculture paysanne. Ah, c'est un paquet.
Je pensais à un truc là, ce maïs produit à force d'irrigation et de pillage de la ressource de pompée dans les nappes, il sert à nourrir des animaux, et pas forcément en plus des animaux sur le territoire français. Ce maïs, il peut être vendu sur les marchés mondiaux.
Oui, mais il est en partie exporté.
Parce que l'eau, elle est dans le maïs. Finalement, il y a une partie de l'eau qui quitte le territoire pour aller ailleurs dans le monde, sous forme de plantes. Non, c'est erroné ce que je dis?
C'est pas erroné, mais je vais dire pourquoi. Tu m'as vu frémir et tout. Là, en ce moment, je suis dans des lieux où la FNSEA nous sert ça, toutes les trois interventions.
Donc on précise la FNSEA,
le syndicat, le syndicat qui pense, qui défend les agriculteurs, mais qui défend surtout un système.
Ah ouais, pour la grosse agriculture intensive, l'info-inondation aux multinationales, etc.
Oui, mais bon, pour l'instant, on parle de ces orientations et tout. Donc ils nous servent ça régulièrement. L'argument, c'est, mais si on ne nourrit pas nos animaux avec ces produits-là et tout, on va importer. D'ailleurs, on doit en importer. Les balances sont probablement en train de se renverser. On va en importer et donc on importera de l'eau. C'est facile d'être vertueux. L'argument vaut aussi pour les gaz à effet de serre, hein, ce qu'on sait. Hein. Les productions d'un certain nombre de pays, si on compte pas les gaz à effet de serre dans les produits qu'on importe, on obtient des résultats qui sont effectivement plutôt meilleurs que quand on commence à compter l'ensemble du cycle carbone. Voilà. Donc, on peut faire la même chose avec l'eau. Pourquoi pas? Et donc, je dirais pas pourquoi je pense que c'est pas transposable et que conceptuellement c'est pas forcément intelligent, mais en tout cas, on nous sert le même argument qui est que si on le faisait pas nous, on l'importerait. Non, c'est juste que la question c'est de ne pas considérer nos modes de consommation comme une donnée et ne pas considérer que si on fabrique pas nous suivant les modes ces modes-là, on sera obligé de l'importer. On peut probablement manger différemment, vivre différemment, etc. Et tout, voilà. L'idée qu'on exporte de l'eau, c'est en partie un concept un peu tordu, quoi. Voilà. Bon.
Revenons-en à nos bassines, méga bassines, etc. Bon, c'est une horreur de plus dans le paysage général qui est épouvantable. C'est que ces structures-là, elles sont financées avec de l'argent public. C'est-à-dire que c'est destiné à la privatisation d'une ressource commune. Mais en plus, cet outil de destruction est financé par les impôts des gens qui en payent. Ça s'appelle du vol, en fait, quand même, non?
Alors, ça s'appelle pas du... Ça s'appelle de l'appropriation. L'argent qui est donné, il vient de plusieurs sources. Si c'est de l'argent qui vient pour du développement de l'agriculture, c'est un mode d'orientation de l'agriculture, il est contestable. On peut dire qu'il y a des modes de développement de l'agriculture qui s'orientent sur un certain type d'agriculture et qu'il y en a d'autres qui est beaucoup moins financé. On sait qu'il y a des débats sur l'agriculture bio en ce moment, sur le maintien, sur tous ces éléments-là. Mais grosso modo, oui, il y a des modes d'agriculture qui sont subventionnés et c'est comme ça que ça fonctionne de ce point de vue-là. Donc, à l'extrême limite, on pourrait dire que c'est à l'intérieur de ce problème-là, il y a un problème de répartition, il y a un problème d'appropriation, il y a un problème de répartition et on pourrait dire que, comme on disait, il y avait un film qui disait ça, il pleut toujours où c'est mouillé et donc c'est quand même plutôt sur un certain nombre de gens qui ont l'habitude de fonctionner qu'ils tombent des subventions. On peut dire aussi qu'on ne peut pas comprendre complètement les milieux, on dit aussi Si on dit simplement qu'une activité ne produit de la valeur, si on n'intègre pas aussi tout ce qu'elle prend par subventionnement extérieur. Mais ça, c'est une partie des choses. Mais il y a une autre partie plus importante et plus et qui, moi, me pose plus problème, c'est que par un espèce de renversement un peu particulier, on fait valoir ces réservoirs comme étant des défenses de l'environnement. Pourquoi pas, d'accord? Pourquoi ne pas faire des investissements qui défendent l'environnement? On fait bien des travaux sur des rivières pour leur rendre un profil plus naturel. Ça coûte. Et moi, je défends le fait que ces travaux-là, qui sont faits en général par des contrats de rivières, etc., et tout, je défends le fait qu'il faut les faire, que c'est servir à la fois la nature et l'humanité que de faire ces investissements-là. Donc, le débat, c'est est-ce que ces bassines servent à améliorer l'environnement. Alors, quand on en a vu de près, on a de la peine, hein, quand même. Hein, une cuvette de 5 hectares bien noire avec de l'abage dessus. Mais il faut restituer le raisonnement qui fait que ça passe comme ça. Ça s'appelle des retenues de substitution. Et le mot est très important. Substitution. Ça signifie que, en principe, cette eau qu'on va prélever l'hiver pour mettre dans des bassines et qu'on va utiliser après, on ne la prélèvera plus l'été. Donc, on substitue une ressource qu'on va chercher dans des rivières qui sont à sec, donc des fois c'est un peu difficile, enfin, ou qui pourraient être à sec. En tout cas, on diminue les prélèvements à une période où il n'y a pas beaucoup d'eau, et on compense par le fait qu'on va chercher de l'eau dans une période d'hiver. C'est l'idée, là, l'eau tombe l'hiver, on en a besoin l'été, on la stocke et on la prend. Mais pour que ça devienne vertueux, il faut qu'on explique que du coup, on ne va pas aller chercher l'eau qu'on allait chercher l'été, puisqu'on ira la chercher de notre côté. Donc, on fait de la substitution. Et donc, on préserve le milieu. Puisqu'avant, on le bousillait pendant l'été, maintenant, on va le stocker pendant l'hiver, où ça ne lui fait rien, paraît-il, et tout, et puis on l'utilise après. Et donc, cette construction théorique, qui est que si on n'avait pas fait les bassines, on aurait prélevé et tout, et qui fait qu'effectivement, de temps en temps, on voit des rivières qui sont un peu moins à sec qu'elles étaient, puisqu'on va utiliser les bassines de l'autre côté. Cette construction-là permet de dire qu'on est sur de l'intérêt général. Alors, au bout du compte, ça sert un tout petit nombre d'agriculteurs qui vont arroser et qui vont avoir une activité économique à partir de l'eau qui a été stockée. Mais suivant le principe que s'ils ne l'avaient pas prélevé là, ils l'auraient prélevé à un endroit qui aurait détruit l'environnement, le fait d'avoir déplacé leur prélèvement à l'hiver est d'une certaine manière un service qu'ils sont en train de rendre à l'environnement. Et donc c'est finançable. Et donc c'est finançable et ça figure dans les programmes à volonté aussi vertueuse que ceux des agences de l'eau et de l'Europe. Et donc c'est cette construction intellectuelle qui conduit à justifier le fait qu'on fasse ces éléments-là pour pouvoir maintenir une agriculture très consommatrice d'eau en ayant, en principe, un peu moins d'impact sur l'environnement. Ça, c'est un vrai questionnement, parce que ça pose la question de c'est quoi la nature qu'on veut, c'est quoi ce qu'on fait, et qui décide de ça. Et donc, c'est ça la question que ça va poser. Du coup, ça posera après la question de et qui, personnellement, en profite. Mais il faut aussi d'abord poser la question de socialement, qu'est-ce que ça donne.
Tu as dit le mot Europe tout à l'heure, et j'ai manqué de t'interrompre. L'Europe, donc, qui accorde des subventions aux gros exploitants agricoles pour qu'ils cultivent du maïs. Parce que si l'Europe mettait des subventions sur le sorgho, il ferait du sorgho. Je referme cette petite parenthèse européenne. Tu as développé leur raisonnement. Bon, ce qu'on fait, c'est bien pour la nature. Tu as déjà esquissé, en fait, en début d'exposé, que en fait, ça tient pas, parce que l'eau, c'est pas seulement. On en parlait avec Thierry. Si on parle de la Loire, par exemple, la Loire, c'est pas seulement point A, mon gerbier de Jonc, point B, estuaire de Saint-Nazaire. C'est un cycle. Dans la Loire, en fait, faut aussi inclure l'océan, le ciel, les montagnes, les nappes. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une boucle. C'est pas seulement un point A, un point B sur une carte. Bon, voilà, c'est bien beau d'aller pomper dans la nappe, machin. D'abord, cette nappe, elle est pas inépuisable, puisqu'à force de pomper dedans, on va peut-être finir par la vider. Si tu casses un maillon de cette chaîne du cycle de l'eau, tu casses le cycle. Voilà, parce que là, t'as très élégamment exposé les arguments de l'ennemi. Mais en fait, ça marche pas, leur raisonnement, parce que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est péter un maillon de la chaîne.
Non, mais c'est important de connaître le raisonnement. Mais c'est surtout que cette logorée, là, elle est partout. On a un gouvernement qui dit des choses comme ça immédiatement. Cette espèce d'idée hyper simple qui est la nature est mal faite parce qu'il tombe de l'eau quand il n'y a pas de soleil. D'accord. Cette espèce d'idée un peu élémentaire et qui indique aussi en même temps que on comprend pas ce que c'est que la nature. Mais cette idée-là, elle est très 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 forte et très implantée. Et donc, il faut être aussi capable de la combattre parce que sinon, sinon on s'en sort pas. Ce que je voulais dire en plus, c'est sur la compréhension de l'écosystème, d'accord, ce que tu as dit là, c'est l'ensemble de tout ça et tout. Il faut expliquer que l'irrégularité est une caractéristique du vivant et que une rivière vivante, c'est pas un canal. C'est une rivière vivante, ça a des hautes eaux, ça a des basses eaux, que écorner les hautes eaux, c'est déjà la transformer, mettre beaucoup d'eau quand c'est une période de basse eau, c'est pas non plus extraordinaire. Il n'y a pas de vraie compréhension si on pense que la nature, il faut que ça soit égal. La nature, c'est saisonnier, et la saisonnalité, ça fait absolument partie de la nature, et il faut la respecter. Quand il y a trop d'eau dans les rivières, quand on estime qu'il y a trop d'eau, et ben c'est aussi cette eau-là qui fait qu'on a des eaux sur les côtes, qui sont les eaux, les zones les plus poissonneuses qu'on a sur la planète.
Hein. Il y a la police qui est après par là-bas, donc si vous avez un masque avec vous, putain, et une ceinture.
Un petit contrôle de police. Donc là, il faut mettre son masque, c'est ça. Donc on met son masque. Bah oui, hein. Parce qu'avec un peu de chance, je voyage dans un bus plein d'antivax, pas vacciné. Donc on est à un péage, en fait, c'est juste des motards à la sortie du péage. Donc toi, tu dis que c'est possible qu'on nous fasse rebrousser chemin? Ça t'est déjà arrivé?
Ben moi, je sais que la dernière manif où je suis allé, il y a des gens qui sont arrivés avec 2 heures de retard. Ils sont arrivés, mais ils sont arrivés en ayant fait des détours sans nom, parce que il y avait des... Ben, moi, j'y suis allé en bagnole et en partant tôt, et donc je suis passé comme une lettre à la poste. Mais quand on échangeait, c'est avec les gens qui étaient sur place, il y avait des gens qui passaient exactement au même endroit et qui avaient eu des itinéraires bien plus compliqués. Pour autant, ils s'étaient à peu près tous arrivés, si je me rappelle bien.
Dans ma rue, il y a 2 boutiques. Dans l'une, on vend de l'eau. Dans l'autre, on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde, en revanche, où l'on vend du lait, l'est. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant: à qui les beaux le débile, à qui les laits le débile, débile si beau, débile aussi laid. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débile. Au débido, il y a le beau bobby. Au débile, il y a la belle babée. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le bobby et la babée sont ennemis. Car les badauds sont emballés par les bidons de lait babé. Mais on maudit le long débit, le long débit des longs bidons du débit d'autres bobby. Aussi babé, ses bidons vidés, elle les envoie sur le dos de Bobby. Et Bobby lui répond en vidant les bidons d'autres sont des vies à les dents. Oh, les bidons d'autres sont des vies à les dents. Les bidons d'autres sont des vies à les dents. Dans ma rue, il y a un mariage, celui du beau Bobby et de la belle babé. Les flats tous deux emménagent. Le débido épouse le grand beau débit de lait. Ils ont repeint leur boutique en blanc. Et chacun dit en y allant: à qui les beaux le débit de lait. Oh, quel palais le débit de l'eau. Débit de lait si beau, débit de l'eau, bah palais. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Bobby a mis du lait dans son eau. Et la babée de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits unis font le plus grand, le plus joli des beaux débits. Et les badauds sont emballés par les bidons, les babés. Oui, mais Bobby garde pour lui les 2 plus beaux bidons de lait de la babée jolie. Et maintenant, si vous y allez, vous entendrez le joyeux babil de 2 beaux bébés blonds qui font tomber d'un bond tous les bidons de lait de la maison. Les bidons de lait de la maison. Les bidons de lait de la maison. Ils se battent à coups de beaux bidons. C'est Bobby, c'est babé, allez donc.
Débit de l'eau, débit de lait de Charles Trenet pour illuminer un peu cette lugubre mais lucide conversation autour des méga-bassines. Alors vous avez compris, hein, le débit de l'eau est compromis avec le pillage des nappes phréatiques, ce qui compromet donc aussi le débit du lait. Suite de notre échange avec Gilles, sympathisant de la Confédération Paysanne et connaisseur de ce dossier du scandale des méga-bassines. Nous sommes toujours dans le bus qui nous emmène à la grande manif du samedi 26 mars 2022, direction La Rochénard, dans les Deux-Sèvres, pas très loin de Niort.
Oui, je voulais te relancer, t'as exposé ce que sont les arguments des promoteurs de ces bassines. Mmh. Et moi, je revenais sur ce que t'expliquais en début d'émission, c'est que l'eau est un cycle et que c'est illusoire et stupide et potentiellement destructeur que de casser la chaîne.
Ouais, d'abord, t'as utilisé le terme, le langage de l'ennemi. Hein. Bon, on va se dire les choses, mais il y a plein de gens de très bonne foi qui pensent ça et tout, et c'est pas nos ennemis, quoi. Hein. Bon, ouais. D'accord. On n'est pas sur ça. On est sur un sujet bien plus complexe et plus intéressant que ça, qui est qu'il y a eu une évolution des modes de production qui fait qu'on a une artificialisation croissante de tous les milieux, qu'on paye déjà, et puis que cette artificialisation supplémentaire qu'est le dérèglement climatique amène déjà des modifications du milieu qui va appeler des réponses collectives fortes et forcément collectives. Et que dans le contexte tel qu'il est, c'est un peu chacun essaye de s'en sortir et c'est ça qui donne ces projets de bassines, etc., dans lesquels c'est même pas toute l'agriculture, c'est une partie de l'agriculture, une petite partie de l'agriculture, un certain mode de fonctionnement qui, du coup, pousse un certain nombre d'aménagements et ces aménagements posent problème à tout le monde et d'abord, en premier lieu, aux écosystèmes et à la nature elle-même. Voilà. Donc c'est cette question-là qu'il faut régler, mais en même temps, on voit bien qu'il faut quand même y répondre. C'est-à-dire que on sait bien que la nature, en France, en Europe, elle est très façonnée par l'homme depuis très très longtemps, mais suivant un certain nombre d'équilibres qui, grosso modo seulement, correspondaient au fait que l'activité humaine s'adaptait au milieu naturel, au milieu naturel dans sa diversité, dans son irrégularité, dans ces éléments-là, et qu'on arrivait à vivre avec ça, et qu'on est maintenant sur une façon de voir les choses qui renverse la problématique et qui dit j'ai tel besoin et il faut que la nature les satisfasse. Il y a quelque chose dont on sait qu'il est un peu en discussion en ce moment. Dans toutes les lois françaises en ce moment, il y a une pour les utilisations de l'eau. Il y a une hiérarchie et la hiérarchie met l'eau potable et la sécurité en tête et les activités économiques loin. Et tous les gens qui sont un peu sur la défense de l'environnement ont dit mais il faut rajouter en plus les écosystèmes, la défense des écosystèmes et c'est franchement plutôt devant même l'eau potable. Mais en gros, écosystème plus eau potable, ça fait un paquet. Et après seulement, on voit ce qu'on peut faire, comment on s'adapte, etc. Cette hiérarchie-là, on commence à entendre des bruits un peu insistants pour les renverser. Sur le thème de « mais quand même, là, maintenant, il y a des crises, il y a des machins. » Est-ce qu'on pourrait pas les renverser? Et si on commence à les renverser, là, on est sur un vrai drame qui va se monter parce que il y a des pesanteurs qui font que, bien entendu, c'est assez naturellement que les systèmes sont attaqués. Si, en plus, on enlève les règles de régulation et si on libère le fait que, on verra après, un, on verra pas, et deux, quand on verra, ça sera peut-être bien trop tard. Voilà. Bon, ça, on est sur un vrai, vrai, vrai enjeu. Hein, au-delà de la question des bassines, c'est bien la question de, devant une crise, qui est une crise, on la voit, elle est énorme, elle frappe de partout, comment nous, comme société, comment on décide de ce qu'on va faire. Et donc, la question que tu avais posée sur le maraîchage et qu'on a plus ou moins abordé tout à l'heure, oui, c'est une question qui se pose forcément. Forcément, dans les consommations d'eau sur la Terre par les humains, hein, dans les consommations d'eau par les humains, on distingue, quand on commence à travailler sur la question, on distingue les prélèvements des consommations brutes. Tout ça est un peu artificiel parce que, de toute façon, personne ne consomme l'eau. L'eau, tu l'absorbes, tu la bois, tu la pisses, elle revient dans le truc. L'eau, elle n'a pas disparu. Elle existe toujours, elle est dans un cycle, c'est la même quantité au bout du compte.
Oui, c'est un truc qui m'avait étonné, glissons-le au passage, c'est que sur la planète, en fait, il y a tout le temps la même quantité d'eau.
Ben oui, en gros, il n'y a pas de réaction chimique qui produit de l'eau. peut-être il y aurait quelques électrolyses, tu sais, avec du. Avec, mais c'est ridicule. L'eau, tu la retrouves, pareil, c'est la même. Elle est. Alors, je sais pas, j'ai pas de connaissances suffisantes pour dire depuis combien de temps c'est la même quantité, mais en tout cas, on connaît pas de phénomène qui fasse que l'eau disparaisse. On sait qu'elle s'évapore, elle s'en va ailleurs, mais en général, la vapeur d'eau, on la retrouve ailleurs. D'accord, et elle revient de l'eau. Des fois, elle devient de la glace, elle devient tout ça et tout. Et
donc, nous, Sapiens, là, on est constitué à peu près de quoi, 70% de flotte, comme ça.
Ouais,
donc, en fait, là, l'eau, je sais pas, qui est sous le moment, sous forme de sang dans mon corps, il y a pas si longtemps, elle était peut-être dans l'océan ou dans le ciel ou dans une nappe phréatique ou dans une carotte, quoi.
Absolument. Et comme la transition qu'elle passe par toi, c'est quand même essentiellement que tu la bois et que tu la pisses, tu la rentres dans le circuit. Et même, je vais rajouter autre chose, c'est que tout ce qui s'est fait à Orléans de consommation, de prélèvement à Orléans, retourne vraisemblablement dans le milieu pas très loin d'Orléans et se retrouve vraisemblablement sur la Loire un petit peu plus loin, ce qui fait qu'il n'est pas complètement abusif de dire que les gens de Blois utilisent et boivent la flotte qui sort des stations d'épuration d'Orléans, et que les gens de Tours, etc. et tout. On est sur des cycles, c'est pour ça que l'exploitation de l'eau c'est compliqué, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est l'eau qui est consommée telle qu'elle est. On parle souvent d'eau usée, alors c'est le terme qui existe, qui est dans les dictionnaires, qui est dans tout ça et tout. Mais ça donne une espèce d'image bizarre qui est que cette eau-là, une fois qu'elle est usée, ben voilà, c'est fini et tout. L'eau, elle n'est pas usée, elle est polluée. D'accord. Mais l'eau en elle-même, pas beaucoup. Ça a du sens de parler d'eau usée parce que tout le monde sait ce qu'on dit quand on parle d'eau usée. Mais ça introduit aussi plus ou moins cette espèce d'idée un peu infiltrée qui est que l'eau, ben une fois qu'elle est consommée par l'homme, pompe, elle n'existe plus. On ne sait plus où elle est. Ou c'est un déchet. On ne sait pas trop et tout. C'est pas vrai. Elle continue son cycle. Donc, alors j'ai dit qu'il y avait cette différence-là. Il y a une différence relativement importante qui est faite entre l'eau qui est évaporée et l'eau qui n'est pas évaporée. Parce que l'eau qui est évaporée retourne dans un écosystème, certainement, mais pas celui d'où il vient. Et donc, ça déséquilibre complètement un écosystème. C'est-à-dire que quand on prend de la flotte et qu'on l'évapore, elle va ailleurs. On ne sait pas trop où. Enfin, voilà, aussi, on commence à savoir un peu où, mais en tout cas, elle n'est plus dans le milieu. Et cette différence-là fait que, explique pourquoi il y a des prélèvements qui ont plus d'effet que d'autres sur les milieux. Et ces prélèvements sont tous ceux qui évaporent, et ceux qui évaporent sont grosso modo les prélèvements pour l'agriculture qui donnent lieu à de l'évaporation, et les prélèvements pour le refroidissement des activités industrielles qui fait qu'il y a de la vapeur d'eau qui s'en va, et en gros c'est parmi les activités industrielles, l'activité principale c'est le refroidissement des centrales nucléaires. Ces deux éléments là sont les éléments de consommation, on utilise parfois ce terme, principaux de nos activités. Pour autant, les prélèvements, ça compte aussi, c'est important, etc. Et donc, la question de savoir comment, dans les milieux qu'on connaît, comment on arrive à préserver les milieux, premièrement, à garder leur identité, et utiliser, il n'est pas question de dire qu'on va arrêter de boire de la flotte et tout, c'est pas un vrai projet de société de dire ça. Bon, donc, mais comment on va coordonner ces éléments-là? Évidemment que c'est nécessaire de mettre la consommation d'eau potable comme une priorité absolue, et puis on va. Après, on peut se poser la question de savoir, par exemple, si c'est une bonne idée de faire des concentrations colossales et saisonnières de populations à certains endroits qui font que tout d'un coup, on a des besoins d'eau potable très importants. Cette question-là, elle doit être posée aussi. En gros, les concentrations de vacances, il faut les poser. De toute façon, c'est des problèmes qui sont posés de toute manière. Donc, cette discussion-là sur l'ensemble des usages, elle est nécessaire. Il faut qu'elle soit faite et tout. Et elle ne se fait pas en ennemi ou pas ennemi. En tout cas, il faut faire attention à ce que ça ne le devienne pas. Voilà. Mais par contre, on peut discuter de tous les objectifs, et c'est bien une différence de vision des choses qui s'oppose en l'occurrence.
Ce que disais, j'en parlais avec Thierry l'autre fois. Donc là, on va pas juste, entre guillemets, faire une manif contre des méga bassines. Ça me fait penser à ce que disaient les zadistes à Notre-Dame-des-Landes. Leur, slogan, enfin, un mot d'ordre était contre cet aéroport, donc grand projet inutile, virgule, et son monde. Donc là, en fait, on va dans le 79 faire une manif, pas seulement contre une bassine ponctuelle, mais toute la logique absurde capitaliste, hein, osons le mot, de courte vue et destructrice que ces bassines représentent. C'est-à-dire que c'est pas juste quelques hectares bâchés, c'est un projet apocalyptique derrière, quoi. C'est un ensemble. On pourrait dire contre les bassines et le monde qu'elles représentent.
Oui, oui, moi j'ai dit que j'avais un passé sur un certain nombre de combats, sur un certain nombre environnementaux. Tous les gens qui se battent sur ces projets-là ne se battent pas avec une vision globale et tout. Ça en fait partie. Hein. C'est tout à l'honneur de tous ces combats-là d'être à la fois, d'avoir des gens qui viennent sur des objectifs qui peuvent être complètement différents. Moi, j'ai dit que dans les éléments un peu sensibles, le fait de voir des bassines, pour moi, c'est un truc qui me choque. Voilà, bon. Peut-être que je me déplacerai seulement pour ça, mais je sais bien qu'il y a plein de gens ici qui sont là pour des raisons totalement différentes. Il y a des gens qui se battent, alors il y en a plein dans le bus là, qui sont en train de parler, il y en a qui se battent pour des formes d'agriculture dont ils comprennent qu'elle est menacée par le mode de développement qui est en face. Ils comprennent que c'est alternatif. Et du coup, ça les amène aussi à se poser la question de, et moi, qu'est-ce que je vois comme gestion de l'eau alternative à celle-là. Et c'est ça qui est à la fois intéressant dans ce combat, c'est qu'à la fois, oui, il y a une opposition au fait que là, on est en train d'en faire en plus. Il y a une volonté de forcer le passage, une volonté d'en faire le plus vite possible et tout, et puis on verra après. Donc il y a ça qui est urgent. Après, il y a, et dans ces manifestations-là, il y a toujours les lieux de débat et tout. C'est quoi ce qu'on fait en alternative, et c'est important que ça y soit. Alors, quand on est sur l'environnement, on sait très bien qu'il y a des acteurs de l'environnement qui sont plus ou moins prêts à s'engager à la limite pour ces projets ou contre ces projets, et qui peuvent être sensibles à un certain nombre d'arguments qu'on a dit sur l'histoire de l'hiver ou de l'été, qui peuvent être éventuellement sensibles aussi au fait que en général ces projets s'accompagnent de projets de réduction de phytosanitaires, de pesticides, hein, pour dire les choses comme ils sont, qui peuvent être sensibles à ces éléments-là. On est sur des éléments de discussion sociétale et tout. Mais on est aussi avec des gens qui disent que c'est pas possible, qu'on va s'y opposer. Mon point de vue, c'est plutôt que depuis le temps qu'on dit qu'on va faire, notamment sur les réductions de pesticides, il est temps que ça se fasse, et qu'il y a un moment où on finit par ne plus le croire. Mais pour autant, c'est bien de l'ordre du débat, de la conviction. Il y a évidemment des intérêts puissants qui sont en jeu, et on sait qu'on est en lutte par rapport à ces intérêts-là, mais il y a aussi des gens, voilà. Et vis-à-vis des gens, c'est de la discussion, et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans le sujet. Rentrer dans un discours qui est un discours sur lequel il faut convaincre, mais qui est aussi un discours qui prend par des gens pour lesquels je ne dirais pas qu'ils sont nos ennemis jamais, quoi.
À tous les étages. Alors, avec le pillage et le vidage des nappes phréatiques, pas certain qu'on trouvera demain de l'eau à tous les étages. Par contre, question gaz, et particulièrement lacrymogène, ils ont été bien servis par les forces de l'ordre, les manifestants de la manif anti-mégabassine du samedi 26 mars 2022. C'était à La Rochénard, dans les Deux-Sèvres.
Pour revenir à ce que tu disais, il y a un mot qui t'a fait bondir tout à l'heure, Europe. Parce que pourquoi le maïs, pourquoi cultiver une plante extrêmement consommatrice de flotte ? L'une des explications, c'est que l'Europe et la France aussi sûrement accordent des subventions aux gens qui cultivent cette plante-là. Enfin, il faudrait se demander. Comme tu parlais d'intérêts économiques extrêmement puissants, lobby, trucs européens, machin, je crois que je t'ai coupé la parole tout à l'heure là-dessus.
Alors, première chose, je voulais réagir parce que ça, enfin, faut rentrer un peu dans la technique. Premièrement, disons une chose, la PAC, c'est une grosse politique de l'Europe.
Politique agricole commune.
Politique agricole commune. Est-ce que moi, je suis pour supprimer la PAC, par exemple ? Honnêtement, non. J'ai dû participer dans le temps à des rassemblements. Je suis allé à Chambéry il y a, je sais pas, 10 ans. Un rassemblement pour une autre PAC. La PONF a toujours porté des trucs pour une autre PAC, etc. La PONF dit à un certain nombre de revendications qui permettent de voir comment on pourrait se poser la question autrement. Et je t'ai dit le bien que je pensais des orientations de la PONF tout à l'heure, mais parce que justement, c'était une vision de l'agriculture dans laquelle on se posait la question de le poser au niveau de l'ensemble de la société. Qu'on ait une PAC, pas une PAC seulement pour les agriculteurs, mais une PAC qui soit les intérêts de la société en matière d'agriculture. Et peut-être qu'il faut y faire un certain nombre de choses. De toute façon, il y a des forces plutôt destructrices ou plutôt de concentration à l'œuvre. Ça serait pas mal que la PAC permette de les contrer. Il se trouve que la PAC ne les contre pas. Pas parce qu'elle finance les irrigants. Elle l'a fait il y a longtemps. Maintenant, elle ne finance pas les irrigants. Simplement, elle finance à la surface. Elle finance à la quantité et tout. Donc, elle finance des exploitations qui ont tendance plutôt à grossir. Et donc, son mode de fonctionnement dans le premier pilier est un mode de fonctionnement qui n'intervient pas réellement pour les modifications qu'il devrait y avoir. Tout en affirmant qu'on doit le faire. C'est-à-dire que toutes les PAC se verdissent. Et toutes les PAC se verdissent, et à chaque fois qu'on a fini la négociation, on constate que l'élément initial a été édulcoré, supprimé, transformé, etc. Et on l'a plus. Alors après, il y a aussi un deuxième pilier qui vise à changer les pratiques. D'accord ? Et c'est dans ce deuxième pilier ont été introduits les bassines. C'est ça qui fait réagir particulièrement. C'est-à-dire que tu as une forme inertielle dans la PAC. C'est-à-dire on maintient la PAC telle qu'elle est, donc telle qu'elle se transforme naturellement. Et cette forme-là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle PAC, on dit qu'on va la changer. Et à chaque fois, l'accumulation des pressions diverses fait que ça ne change pas réellement et ça ne change pas vraiment. Donc ça, c'est le premier élément. Et il y a un deuxième élément, l'affirmation à côté, parce que c'est des stratégies. C'est-à-dire les gens qui voulaient défendre se disent « j'arrive pas à gagner dans le premier pilier, on va gagner dans le deuxième. » Il y a eu des périodes où on faisait passer des trucs de l'un en l'autre en essayant que ça soit plus efficace. Donc, il y a un deuxième pilier dans lequel il y a des mesures environnementales et il y a un combat sur ces mesures environnementales pour que ne soient pas pris en compte des éléments que nous considérons, nous, comme étant peut-être des éléments économiques, mais certainement pas des éléments environnementaux. Et c'est là qu'il y a tromperie. Et c'est là qu'il y a un combat particulier.
Gilles, en fait, là, donc, on va dans les Deux-Sèvres, dans le 79, pour une grande manifestation contre, en fait, le principe des bassines, c'est-à-dire qu'il y en a là-bas, mais... je pensais un petit peu naïvement que ce qu'on va voir là, c'était une espèce de prototype et qu'il fallait tout de suite se manifester contre, parce que ce modèle risquait de décémer... Enfin, c'est le plan, c'est le projet qui est dans les tuyaux, hein, c'est d'en mettre partout sur le territoire. Or, il y en a déjà un peu partout sur le territoire de ces projets, c'est pas un truc ponctuel là dans le 79.
Alors, ta façon de voir les choses n'est pas naïve, c'est la situation. C'est-à-dire que, oui, il y en a un certain nombre qui ont été montés et tout, et qui sont des prototypes qui ont servi. Il y en a eu dans plusieurs bassins qui ont existé. Cette histoire de la lutte sur l'eau, il faut quand même rajouter que nous, on a un mort hein, dans cette histoire-là. Hein. Parce qu'à Sivens, ce qui s'est passé, c'était pas des bassines de ce type-là, hein, c'était un barrage, mais l'idée était quand même à peu près la même.
C'était Rémi Fraisse, non,
oui,
l'ornithologue.
Oui. Et c'est quelqu'un qui était en train de manifester totalement pacifiquement. Tout le monde sait qu'il a été tué par un tir de... D'accord, il a été tué par une arme qui a été envoyée sur lui. Et donc, on ne découvre pas le problème. Pourquoi est-ce que, du coup, elle prend une certaine importance, hein, peut-être parce qu'il y a un moment de saturation, hein, et tout, parce qu'il y a un moment où ça suffit, mais surtout parce que, clairement, ce projet-là a été donné par ses porteurs comme un exemple à généraliser. Il l'a été. Et je connais des gens sur place qui disent que c'était une erreur, qu'ils souhaitaient rester simplement sur leur projet, et que, voilà, mais que le fait qu'il soit devenu un exemple, mais il est devenu un exemple parce que, très clairement, les porteurs de ce type de projet en ont fait un exemple et ont défini la façon dont ça s'était fait comme la bonne solution pour y arriver. Et de fait, ce qui s'est discuté en partie dans le Varenne de l'eau, là en ce moment, il s'est discuté plein de choses de toutes sortes, etc. Mais le cœur du Varenne de l'eau, et c'est aussi pour ça qu'un certain nombre de gens n'y sont pas allés, le cœur du Varenne de l'eau, c'était comment faire pour développer ce type d'équipement massivement et rapidement. Voilà. Et donc, oui, c'est bien un enjeu national, mais c'est pas les opposants qui en ont fait un enjeu national, c'est les promoteurs de ce type de choses qui en font un enjeu national, y compris si certains acteurs locaux préféreraient que ça n'en soit pas. Mais c'en est un.
Voilà les amis, c'est ici que se termine notre conversation avec Gilles, sympathisant de la Confédération Paysanne, rencontré dans le bus qui se rendait à la grande manif du samedi 26 mars à la Rochénard dans les Deux-Sèvres, pas loin de Niort. Cette manif, on en reparlera au prochain épisode, mais alors je peux déjà vous dire, nous nous sommes fait copieusement gazer à la lacrymo par les forces de l'ordre. Quand une masse populaire légitime est brutalisée pour défendre une poignée de pilleurs d'eau qui nous mettent tous en danger. Réfléchissez bien à ce qui se passe déjà en France en ce printemps 2022. Pensez bien à ce jour très proche où l'eau potable cessera de couler du robinet. Parce que les nappes phréatiques auront été vidées au nom d'une agriculture industrielle et destructrice à courte vue. Bon alors rassurez-vous, hein, quand il n'y aura plus d'eau potable au robinet, Nestlé ou Coca-Cola ou je ne sais qui seront ravis de pouvoir vous en vendre de l'eau. Si vous avez les moyens d'en acheter, bien sûr. Et surtout, dans la limite des stocks disponibles. Et ça, ça reste à voir. On en reparle au prochain épisode de cette série anti-méga-bassine. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission et plein d'autres sur notre site, polemixetlavoixoff.com, où il est aussi possible de s'abonner au podcast. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. 101.5 FM. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.